Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa sur la mise en onde et à la présentation, Jean Ngandou. Accord d'épée de Washington, on en parle encore en ce jour dans le cadre de cette émission Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. Merci de nous suivre à travers nos différentes fréquences et sur les différentes plateformes. Pour le débat de ce jour, nous recevons Jean-Claude ou Roger-Claude Liwanga, professeur de droit et de négociations internationales avancées à la faculté des droits de l'Université Emory, basée à Atlanta aux États-Unis. Il est l'un des initiateurs du baromètre des accords de paix en Afrique. Ce baromètre est une structure privée, mieux un groupe d'experts indépendants qui analyse le degré d'application des accords signés en Afrique. Roger Kodliwanga, bonsoir.
Oh, bonsoir.
Nous avons également Joseph Nkoy, qui est député national et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Il est rapporteur adjoint de la Commission de Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale. Il est aussi vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Joseph Nkoy, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi. Merci pour cette invitation.
Merci. Et enfin, nous avons Augustin Bissimoy, qui est secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC, parti de l'opposition extra-parlementaire. Augustin Bissimoy, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Jean Gandou.
Merci d'être dans nos studios pour cela.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Une fois de plus, bienvenue et bonne condition d'écoute. Revenons donc sur les rapports du groupe parlementaire Baromètre. 9 mois après la signature de l'accord, le 27 juin 2025, entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la mise en œuvre de l'accord demeure globalement limitée en dépit d'un progrès modéré observé au cours du mois de mars 2026. Cette affirmation est contenue dans le rapport publié lundi par le baromètre des accords de paix en Afrique intitulé « Rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de paix » de Washington, mars 2026. Selon cette structure, cette évolution reflète notamment l'amorce d'engagements sensibles et prioritaires de l'accord, dont les opérations de neutralisation des FDLR. Toutefois, cette dynamique encourageante est tempérée par la persistance des conditions humanitaires singulièrement préoccupantes. Plus de détails avec vous, Alain Hiron-Mouchige.
Parmi les constats positifs enregistrés du 1er au 31 mars 2026, le rapport note par exemple le lancement le 29 mars 2026 de la phase offensive de neutralisation des FDLR. Cependant, le nombre exact d'éléments ayant volontairement répondu à l'appel à la reddition lors de la phase de sensibilisation ainsi que le calendrier de la phase offensive n'ont pas été précisés. Il y a aussi la réinsertion sociale au Rwanda de plus de 200 ex-combattants des FDLR selon un rapport publié par The New Times Rwanda, constitue une évolution susceptible d'encourager d'autres redditions d'éléments encore présents dans l'est de la RDC. En revanche, indique le rapport, les principaux défis observés concernent notamment la poursuite des hostilités entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, marquée par un recours croissant à l'utilisation des drones offensifs, comme l'indique un rapport de la MONUSCO, la déficience de la trêve dans le cadre du mécanisme conjoint de vérification élargie plus, ainsi que l'absence préoccupante de l'accès humanitaire effectif et sans entrave au profit des populations civiles.
Merci Alain Hiron-Mouchige. Et donc nous avons trois invités avec nous. Le premier c'est Roger-Claude Liwanga que nous recevons depuis les États-Unis d'Amérique. Roger-Claude, bonsoir, une fois de plus.
Bonsoir Monsieur Jean-Claude Gazou et merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est Jean Gandou. Et dans ce studio, nous avons Augustin Bissimoy, qui est secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Et au téléphone, une fois de IA, Joseph Nkoy. Nous commençons par vous ou avec vous, monsieur le professeur Roger-Claude Liwanga. Vous êtes expert indépendant au sein du baromètre et l'un des rédacteurs de ce rapport d'évaluation. Quelle évaluation faites-vous donc de la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda il y a quelques mois?
Merci beaucoup, Monsieur Ngandou, pour votre question. 9 mois après, le rapport montre plutôt une mise en œuvre lente, fragile, mais en progression. 3 éléments sont importants. Le niveau d'exécution qui passe de 23,3% à 27,5%. Certains sache sensible ont commencé l'exécution, notamment les opérations liées à la neutralisation des FDLR. Il y a aussi des signaux diplomatiques et sécuritaires positifs qui ont été observés du 1er au 31 mars. Cependant, les hostilités qui persistent, l'accès insuffisant aux aides humanitaires et le mécanisme de suivi qui ne fonctionne pas pleinement. Donc, c'est un peu ça le tableau de l'évaluation de l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 durant la période du 1er au 31 mars.
Roger Claude, quels sont les éléments d'appréciation objectifs sur lesquels vous vous êtes basé pour élaborer votre rapport?
Ok, nous avons une méthodologie de codage que nous utilisons qui se base sur les tâches de l'accord qui ont été transformées à des engagements vérifiables et observables. Notamment, nous évaluons des tâches sur une échelle de 0 à 10. Donc, 0 signifiant une exécution non initiée, 2,5 signifiant une exécution initiée, 5 points sur 10 correspondant à une exécution minimale, 7,5 correspondant à une exécution intermédiaire et 10 points correspondant à une exécution complète. Cela représente la situation où une tâche est presque exécutée ou entièrement exécutée compte tenu de la manière dont elle est spécifiée dans l'accord de paix. Donc, mais nous tenons compte de cette méthodologie de codage utilisant l'outil de mesure de la mise en œuvre de l'accord de paix qui est appelé OMAP.
Voilà, Roger Claude, vous êtes aux États-Unis et le théâtre des opérations, si c'est en République démocratique du Congo. Le décalage ou la distance qui vous sépare du théâtre des opérations, est-ce que cela vous donne les coudées franches pour que vous ayez à apprécier d'une manière objective ce que vous avez écrit dans votre rapport?
Bien entendu, parce que les données sur l'exécution de chaque tâche qui est contenue dans l'accord sont collectées par une équipe de recherche, dont moi-même et d'autres collègues, à travers les échanges avec les parties prenantes, les parties clés du processus de paix, les analyses des déclarations et des annonces officielles des parties prenantes, ainsi que l'examen des articles et des rapports des ONG locales et internationales durant la période du 1er au 31 mars. Nous sommes loin, mais nous regardons de près ce qui se passe en RDC en ce qui concerne l'implémentation de l'accord.
D'après vous, qu'est-ce qui fait que les avancées enregistrées ne soient pas très très significatives?
Ça c'est une très bonne question. Il y a aussi la question qui est liée à la bonne foi des parties. Et il y a la question de la méfiance entre les parties clés, de telle manière que chaque partie conditionne l'exécution d'une tâche spécifique de l'accord à l'exécution préalable par l'autre partie. Ça bloque aussi la mise en exécution. Un autre élément, c'est le point lié au mécanisme de suivi. Tel que le rapport le mentionne, le JOC, qui est un mécanisme de suivi de l'accord de paix, n'a pas tenu sa réunion depuis la fin du mois de novembre 2025. Or, ça, c'est un problème. Comme vous le savez, le JOC réunit les États-Unis, le Qatar, le médiateur de l'Union africaine, les représentants du gouvernement congolais, eux ceux et ceux du Rwanda. Or, un tel mécanisme doit se réunir régulièrement pour voir, constater le retard et proposer des mesures pour accélérer la mise en œuvre de l'accord. Or, en ne se réunissant pas, ça c'est un grand problème.
Merci beaucoup, Roger Claude. Nous allons donc passer à Joseph Nkoy, qui est député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation, rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Joseph Nkoy, vous êtes également vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Dites-nous, 9 mois après la signature de cet accord, est-ce que d'après vous, il y a avancé en termes de respect des engagements pris par les uns et les autres? Si oui, quelles en sont-elles et sinon, où se trouverait le blocage?
Bien, merci encore une fois de plus pour cette opportunité qui nous permet d'échanger sur cette question qui ne cesse de faire couler de l'encre et de salive. Avant de répondre à votre question, je voudrais une fois de plus saluer la volonté des États-Unis d'Amérique manifesté dans le cadre de ce processus de pacification de la région des Grands Lacs en général et en particulier entre la RDC et le Rwanda, comme vous le savez, qui ne cesse de se livrer depuis plus de 30 ans dans une démarche de déstabilisation de la région et de la RDC ou de la partie Est particulièrement. Et c'est justement, comme vous le savez, pour assurer la survie de son économie. Je voudrais tout de même rendre un hommage mérité à M. le Président de la République et tout son gouvernement pour tous les efforts déployés dans le cadre de ces processus et dans le but de pouvoir assurer la paix en République démocratique du Congo. Et pour justement mettre fin au théâtre du Rwanda dans la partie orientale de notre pays. Et comme vous le savez, la mise en œuvre des engagements internationaux, je pense que le professeur qui m'a précédé hier est venu, repose essentiellement sur la bonne foi des parties. Et je suis certain que vous savez que la RDC, dans le cadre de la mise en œuvre des accords de Washington, principalement l'accord de paix entre elle et le Rwanda, fait toujours bonne foi de la mise en œuvre ou de l'exécution de ses engagements, contrairement à son co-signataire ou son co-contactant, le Rwanda. L'accord de Washington, comme vous le savez, compte un certain nombre d'engagements qui reposent sur la responsabilité de chaque partie. Il se constate malheureusement que le Rwanda et ses vassaux, je vois l'AFC et M23 et tout ce qu'il y a dans l'Est ne font que violer cet accord et considérant ici comme si rien n'existait et que aucun texte ne le liait.
Mais d'après vous, au niveau du gouvernement,
vous le savez.
S'il vous plaît, M. Joseph, là vous incriminez les autres, mais au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui a déjà été fait? Quel est le pas positif qui a été avancé, le tout premier pour que les autres puissent également en faire les leurs?
Vous l'avez relevé que dans le cadre de cet accord, il est fait obligation au gouvernement de la République de mettre tout en œuvre pour neutraliser les FDLR qui existeraient. Et vous avez déclaré, les auditeurs ont compris, qu'il y a au moins 200 anciens ex-combattants des FDLR qui ont été réintégrés dans Rwanda. Et vous avez compris donc que la RDC ou le gouvernement congolais est en train de mettre en œuvre son engagement, contrairement au Rwanda qui ne cesse de se manifester par des actes d'hostilité, des actes des massacres, des actes de violation de droits humains et ce qui entraîne justement la dégradation significative de la situation humanitaire.
Mais je sais quand même que ces derniers temps, on parle de plus en plus du désengagement de l'armée rwandaise dans certaines positions.
Je pense que vous avez suivi la récente interview du président rwandais accordée à Jeune Afrique qui dit que ses troupes vont demeurer en République démocratique du Congo aussi longtemps, selon lui, que les processus de neutralisation des FDLR ne seraient pas mis en œuvre. Alors que vous-même, vous l'avez dit, que le gouvernement congolais est en train de tout mettre en œuvre pour arriver justement à lever cet alibi-là, généralement, où donc se sert le Rwanda pour justifier ses actes d'hostilité, justifier toutes les violations de droits humains perpétrées en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les processus de neutralisation des FDLR est déjà mis en œuvre, mais le Rwanda refuse de retirer ses troupes sur le territoire congolais, cherchant de plus en plus à s'emparer d'autres localités, comme vous le savez, dans le but de pouvoir s'assurer de l'espace d'influence pour soustraire illégalement les richesses de notre pays, les minéraux de notre pays.
Mais monsieur Joseph Nkoy, quand on sait que cet accord n'a pas un caractère contraignant, qu'est-ce qui devait être fait pour que le Rwanda se sente suffisamment concerné et qu'il puisse mettre en œuvre ce qui a été signé?
Je pense pour le gouvernement congolais, pour la République démocratique du Congo, nous faisons confiance aux médiateurs qui est les États-Unis d'Amérique. Nous ne pouvons pas nous comporter comme le Rwanda, comme un gouvernement responsable, comme un État sérieux. On fait tout pour mettre en œuvre les engagements qui reposent sur nous, les engagements dans le cadre de ce processus de Washington. Nous ne pouvons pas nous comporter comme le Rwanda. On fait ce que nous pouvons faire. Si le Rwanda, comme d'habitude, se livre dans des actes d'hostilité, je suis certain que les États-Unis d'Amérique, qui ont la responsabilité internationale de faire tout pour faire respecter cet accord, je pense que les États-Unis vont tout faire justement pour imposer des sanctions. Je pense que vous avez appris que les États-Unis ont sanctionné les officiers rwandais parce que justement le Rwanda pense fouler la bonne foi de tout le monde au sol, pense qu'il peut vivre comme ça sans que aucun pays ne puisse les contraindre. Nous savons que nous avons nos responsabilités, nos engagements. Nous les exécutons et nous reposons toute la responsabilité relative à la mise en œuvre globale de cet accord sur la bonne foi du Rwanda et aussi sur la volonté des États-Unis à tout mettre en œuvre pour faire respecter cet accord.
Joseph,
surtout que je le note, il y a des résolutions du Conseil des Nations Unies auxquelles on a fait référence dans le cadre de cet accord. Nous pensons que les États-Unis, qui sont un acteur non négligeable dans le cadre de la politique internationale, vont tout mettre en œuvre pour que le Rwanda ne puisse plus continuer à déstabiliser la région est de notre pays.
Merci Joseph Koy, nous vous gardons encore dans ce débat. Nous retournons du côté d'Augustin Bissimwa qui est dans ce studio. Augustin Bissimwa, une fois de plus, bonsoir. D'après vous, que faire pour que l'accord qui a été signé de bonne foi par toutes les parties puisse produire les résultats escomptés?
Oui, Jean Gandou, permettez-moi, c'est sous une émotion que je prends la parole dans cette émission que j'appelle pédagogique. Émotion, pourquoi? Parce que dans mon territoire de Kabarès, il y a eu des morts qu'on a déplorées dans les affrontements qui ont eu lieu hier et avant-hier, plus précisément dans le groupement de Moudaka, et où on a compté beaucoup de morts à Tchibumbiro, à Kadjedje, et donc actuellement il y a 5 groupements qui sont beaucoup plus concernés par les atrocités au niveau du territoire de Kabarès. Nous avons Moudaka, nous avons Irambi Katana, nous avons Kagabi, Chirunga et plus loin il y a aussi Bushwira, et donc ces groupements sont désormais les théâtres des affrontements et nous en sommes tellement consternés autant comme partout ailleurs au niveau de l'Est. Je salue en passant l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est le président de notre coalition, qui est aussi très préoccupé par, n'est-ce pas, la paix dans notre pays, aux côtés du docteur Justin Modékereza.
Vous pouvez aller tout droit au but, oui.
Et donc, laissez-moi d'abord vous présenter les faits qui m'inquiètent dans ces problèmes depuis que la guerre a commencé. Cher Jean Gandou, nous sommes au niveau où la cité de Bunagana était tombée, qui a été facilité, cette chute était facilitée par l'Ouganda. On a évolué, on apprend que l'Ouganda et la RDC venaient de signer des accords de coopération pour mutualiser les forces contre les ADF.
Qu'est-ce qu'elle a des et rapports ça, avec
je,
la
je suis en train d'évoluer. Oui. Permettez-moi d'évoluer parce que c'est pédagogique. Moi, je suis de l'opposition. Il faut que nous puissions faire comprendre à la population parce qu'on ne sait pas comprendre à quoi n'est-ce pas, Kinshasa est en train de jouer. Et donc, quand Bunagana tombe, facilité par l'Ouganda, et que après cela, l'Ouganda et Kinshasa signent des accords contre le ZADF, je voudrais comprendre à quel niveau l'Ouganda était devenu notre allié. On a évolué. Après cette signature, nous avons en 2023 le président Tshisekedi qui tient un discours que nous avons tous salué. Il dit, désormais, la RDC a les capacités nécessaires pour frapper le Rwanda qui nous agresse.
Mais nous sommes d'abord au niveau de l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Nous parlons de l'application de cet accord. Parce que là, vous nous renvoyez dans l'histoire et ça s'élargit au point où, à un moment donné, vous n'aurez pas assez de temps pour dire ce que vous devez en principe dire.
J'aurais déjà fini si vous n'aurez pas pris la parole.
Ouais.
Et donc, le président annonce qu'on a les capacités nécessaires pour, n'est-ce pas, en découdre avec le Rwanda et qu'une seule base suffisait. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'il ne puisse plus convoquer les deux chambres réunies en congrès pour décréter l'état de guerre contre le Rwanda? Et là, on constate sincèrement qu'on a des capacités nécessaires, mais il manque la volonté de pouvoir attaquer. Parce qu'il n'y a pas que le Rwanda qui doit nous faire mal tous les jours, comme si nous, on n'a personne pour nous défendre. Alors, on évolue. Monsieur Jean Gandou, nous sommes le 10 janvier 2025. Mon parti, le MDVC, adresse une correspondance à l'ONU pour décrier les comportements du Rwanda. Et qu'est-ce que l'ONU a fait? En date du 21 février, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend une résolution 2773. Cette résolution demande au Rwanda de retirer ses troupes, et cela sans condition. Mais comment on se retrouve à Washington pour signer cet accord de paix? Qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait pour exiger la mise en œuvre de la résolution 2773 qui demandait que le Rwanda se retire sans condition?
Et cette demande est même formulée à qui?
Et quand on arrive à Washington cette fois-ci, on négocie un accord qui fait que le Rwanda n'est plus agresseur, mais il devient cette fois-ci partenaire fiable avec lequel nous allons co-gérer nos richesses dans la partie Est. Et donc, qu'est-ce que la RDC est en train de chercher à ce niveau-là? Et cet accord, quand on le négocie, qu'est-ce que ça dit? On réussit à faire croire que le Rwanda est chez nous à cause des FDLR, alors que les Nations Unies, elles n'ont pas posé de conditions.
Mais quand vous suivez, quand vous suivez les revendications du Rwanda, elles se posent prioritairement sur la présence des FDLR en République démocratique du Congo.
Je suis en train d'évoluer, je vais y arriver. Mmh. Et donc, nous sommes au niveau où, quand le Rwanda négocie à Washington, il fait fléchir le gouvernement congolais. Et il dit, non, je ne suis pas agresseur, je suis en RDC, j'y pose les mesures de défense contre les FDLR. Et la RDC tombe dans ses pièges et accepte et s'engage à neutraliser les FDLR. Et le Rwanda s'engage à faire quoi? À lever ses mesures défensives. Mais maintenant, quelle est la faiblesse de cet accord? La faiblesse, c'est que l'on n'a pas réussi à clarifier à quel moment le Rwanda peut commencer à se retirer. Est-ce que c'est après neutralisation des FDLR? Est-ce que c'est pendant la phase de neutralisation? Est-ce que c'est avant les débuts de neutralisation? C'est à ce niveau-là que nous estimons sincèrement qu'il se pose un problème. Pourquoi la RDC s'est engagée
à neutraliser les FDLR alors que c'est une question des Nations Unies. Qui nous a amené ces FDLR? Nous, on a accueilli des réfugiés en 94. Comment sont-ils devenus FDLR? Eh bien, c'est une question des Nations Unies. Le gouvernement n'aurait dû pas s'engager à cela.
Voilà. Professeur Roger Claude Liwanga, vous venez de suivre Augustin Bissimoua. Est-ce que vous êtes du même avis que lui?
Bon, d'abord, je voudrais souligner ceci. Le baromètre est un mécanisme indépendant de suivi technique de l'accord de paix. Et comme vous le savez aussi, de nombreux accords de paix en Afrique et surtout dans la région des Grands Lacs ont échoué non pas en raison de leur contenu, mais faute d'un suivi rigoureux dans leur application. Ça, c'est un élément que j'allais souligner. En ce qui concerne la question liée au FDLR, le lancement de la neutralisation de ce groupe est une avancée très importante dans la mesure où elle constitue une obligation centrale dans l'accord de paix de Washington et qu'elle conditionne la levée des mesures défensives rwandaises et elle influence directement la sécurité régionale. Cependant, il y a quelques problèmes structurels tels que je l'avais mentionné ou encore tels que cela est inclus dans le rapport. Dans la mesure où le nombre de combattants de FDLR qui se sont rendus durant la phase de la sensibilisation n'est pas précisé et le calendrier de la phase offensive n'est pas communiqué non plus. D'où la question, combien de temps prendra-t-elle cette phase? La durée des opérations de neutralisation sera relativement identique à celle initialement prévue dans le cadre du CONOS.
Et cette question, nous pouvons également. Voilà, la question, nous la posons également à Joseph Nkoy. Vous venez de suivre Augustin Bissimoua, mais aussi Roger Claude Liwanga. Est-ce que cela vous convainc que cet accord a des problèmes en lui-même?
Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, ça va, mais un peu de bruit autour de vous.
Voilà. Est-ce que c'est bon?
Oui, vous pouvez y aller.
D'accord. J'ai suivi mon frère qui est sur le plateau. Je voudrais relever ou lever quelques malentendus parce que j'ai compris qu'il y a quelques malentendus qui pèsent dans son esprit avant justement de répondre à votre question.
Si vous pouvez y aller rapidement parce que nous courons.
Il revient sur le fait que le président de la République avait promis de pouvoir convoquer les deux chambres en congrès pour la proclamation de l'état de guerre. Vous savez que notre pays et le leadership du président Tshisekedi ne s'oriente pas principalement dans la déstabilisation de la région ou dans la perspective de la guerre. Nous sommes pacifiques, comme vous le savez, et nous sommes sur cette voie-là. Voilà pourquoi le président Tshisekedi fait toujours un effort pour privilégier la résolution des conflits par des voies pacifiques.
D'accord,
il revient sur la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, posant la question, qu'est-ce que la RDC a fait? Non, c'est le texte du Conseil de sécurité et c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies de tout mettre en œuvre pour son application. Et vous savez que régulièrement, il y a des plaidoyers qui sont faits dans ce sens par le gouvernement congolais. Pour terminer, il dit que le Rwanda fait fléchir le gouvernement congolais. Non, peut-être que mon frère ne comprend pas bien les choses. Il le sait bien, sauf si je me trompe, que la question de FDLR constitue l'alibi principal qui permet au Rwanda de justifier ses actes d'hostilité, ses massacres sur les territoires congolais. Et pour mettre fin à cet alibi, le gouvernement congolais dit « Ok, très bien, nous allons tout mettre en œuvre pour neutraliser les FDLR ». Et c'est ce qui est en train d'être fait, justement pour contrer le Rwanda, pour mettre le Rwanda de au mur par rapport à son mensonge, par rapport à son narratif mensonger.
Merci, Joseph.
Je reviens par rapport à la mise en œuvre de l'accord. Je le dis ici que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas à reprocher à ces moments, puisque vous avez noté que tout ce qui se fait maintenant, c'est de la part de la République démocratique du Congo qui met en œuvre tous les engagements de cet accord-là par rapport à ce qui lui revient comme charge. Il appartient au Rwanda de pouvoir faire autant et aux médiateurs des États-Unis d'Amérique de mettre toute la machine en œuvre tant sur le plan diplomatique qu'économique pour amener le Rwanda à fléchir devant le texte de l'accord de Washington.
Merci beaucoup, nous avons compris. Et là, nous allons passer aux questions de ceux-là qui nous suivent et qui les adressent à ceux qui participent à ce débat. Et la première question nous vient de Goma avec Gloire Mtagano et elle est adressée à Claude Roger.
Gloire Mtagano, j'interviens à partir de la ville de Goma. Mon intervention de ce soir s'articule sur les rapports de mars 2026 qui illustrent une dynamique fragile. Des signaux positifs existent, mais ne suffisent pas à inverser la tendance générale de stagnation. Cela souligne que l'accord de Washington est encore loin d'être un instrument de stabilisation durable. La poursuite des combats et la crise humanitaire rappellent que la paix ne peut se limiter à des engagements diplomatiques. Elle exige une volonté politique constante, un suivi international renforcé et une meilleure articulation entre sécurité et développement. La question clé pour les prochains mois sera de savoir si les avancées récentes, qui est la neutralisation des FDLR, leur insertion, peuvent créer un effet cumulatif ou si les blocages structurels condamneront l'accord structurel sur les condamnations et un cadre diplomatique sans réelle transformation sur le terrain.
Roger Claude Liwanga, que répondez-vous à cet auditeur?
Bon, merci beaucoup, M. Ngandou, et surtout pour l'auditeur, pour d'abord ses observations et sa question. D'emblée, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec sa lecture, et cela me pousse à dire que la question, la lenteur dans la mise en œuvre de l'accord de Washington reflète en réalité une situation observable dans n'importe quelle situation où un accord de paix doit être exécuté. Et dans ce contexte-là, les progrès sont graduels puisque les tensions persistent et que les avancées et les reculs coexistent. La question maintenant est celle de savoir comment est-ce les parties prenantes peuvent profiter de cette dynamique encourageante pour faire plus. C'est ça la grande question. C'est ainsi le médiateur dans cet accord, les États-Unis, dans notre rapport, nous avons formulé une litanie de recommandations à chacune des parties.
Est-ce qu'on peut en connaître quelques-unes des recommandations formulées dans votre rapport d'une manière
Par exemple, en ce qui concerne les États-Unis doivent maintenir et renforcer la pression diplomatique et politique coordonnée sur les deux parties afin d'assurer le respect des engagements et les délais convenus, et notamment en ce qui concerne la neutralisation de FDLR et la levée des mesures défensives rwandaises. Ça, c'est une recommandation clé pour les États-Unis. Bien entendu, nous avons aussi souligné l'importance de soutenir les efforts visant à renforcer la transparence dans les opérations de neutralisation de FDLR et de la levée des mesures défensives rwandaises.
Et pour à la RDC, quelles sont les recommandations faites à la RDC?
À la RDC doit accélérer et structurer les opérations de neutralisation de FDLR en publiant un calendrier indicatif qui doit être accompagné des informations périodiques sur le nombre des éléments de FDLR qui ont déposé volontairement les armes et ou encore le nombre des éléments de FDLR qui ont été militairement neutralisés afin de renforcer la crédibilité et dans ce processus.
Et au Rwanda?
En ce qui concerne le Rwanda,
oui.
Au Rwanda, nous avons, tel que le rapport a mentionné, il y a eu un retrait des éléments de AFC M23. Bon, potentiellement aussi, on peut dire, les forces armées rwandaises. Mais la question, c'est que le Rwanda doit fournir des clarifications officielles sur la portée de ce retrait observé, en indiquant, en précisant si les membres de l'armée rwandaise étaient aussi concernés par ce retrait et en indiquant quelle est leur destination finale. En
voilà.
En quittant Lubero, est-ce qu'ils sont rentrés au Rwanda ou bien en quittant Lubero, ils sont repositionnés quelque part?
Nous allons revenir vers vous. Rwanda, nous allons revenir vers vous, Roger, Claude et Liwanga. Là, nous avons une question qui nous vient de Jackson Kisangani et elle est adressée à Joseph Nkoy.
Bonsoir la radio de la paix, moi c'est Jackson Kisangani, je vous appelle depuis la ville province de Kinshasa. Cet accord ne doit pas être évalué uniquement à travers des indicateurs diplomatiques ou des rapports techniques. La véritable mesure de son efficacité se trouve ailleurs, dans la vie quotidienne des populations de l'Est de la RDC. La vraie question n'est donc pas simplement de savoir si l'accord est respecté sur le papier. La vraie question est plus profonde, plus humaine, plus urgente. Est-ce que cet accord change réellement la vie des Congolais? Est-ce que les familles ont retrouvé la sécurité? Les déplacés rentrent chez eux? Est-ce que les enfants retournent à l'école sans peur? Pour l'instant, la réponse reste mitigée. Et tant que cette réponse ne sera pas clairement positive, nous ne parlerons pas encore de paix, mais d'un espoir en construction, fragile et encore loin d'être une réalité.
Joseph Nkoy, comment réagissez-vous à ceci?
Évidemment, il y a encore beaucoup à faire dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. La finalité, c'est justement arriver au retour de déplacés, à instaurer définitivement la paix à l'est de la République, mettre toutes les populations de l'est dans la quiétude possible. Et comme je le dis, c'est un chemin. Et nous y sommes encore. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que l'accord de Washington s'inscrit dans la nécessité de pouvoir résoudre globalement la question de conflit à l'est de la République et particulièrement. La volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, n'est pas de chercher une paix précaire comme ses prédécesseurs, mais que nous puissions retrouver une paix durable et définitive. Et c'est tout un chemin à faire, c'est tout un parcours à réaliser. Ce dont je suis certain, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours comme le président l'a dit.
Merci beaucoup.
Si aujourd'hui, toutes les questions ne sont pas encore résolues, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que l'accord de Washington soit appliqué dans toute sa rigueur et que les populations de l'Est retrouvent la paix définitive et juste de leur droit d'être véritablement congolais.
Merci beaucoup Augustin Bissimon. Il y a Blaise Saïdi Atoubou qui vous adresse cette question depuis la ville de Kisangani.
Depuis Kisangani, Blaise Saïdi Atoubou. 9 mois après la signature de l'accord du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda, la mise en œuvre de cet accord est globalement insuffisante et décevante. Malgré quelques avancées ponctuelles, celles-ci restent marginales et tardives, sans impact réel sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le faible taux d'exécution traduit un manque de volonté politique réelle, ainsi qu'un décalage évident entre les engagements pris et les actions concrètement réalisées. Il me semble que cet accord donne l'impression d'avoir été conclu davantage pour désamorcer temporairement les tensions internationales que pour régler en profondeur les causes du conflit.
Qu'en dites-vous?
Oui, le compatriote Blaise a raison, parce que c'est tout ce que nous sommes en train de décrire aussi. Parce que vous avez suivi d'ailleurs l'honorable et quand il dit que les États-Unis vont observer et tirer, n'est-ce pas, les conséquences de sanctionner le Rwanda si le Rwanda continue à se comporter comme ça. J'aurais voulu qu'il dise que la RDC va s'assumer. Plutôt que de dire...
C'est-à-dire quoi, s'assumer?
S'assumer signifie qu'en tant qu'un État qui comprend qu'il est agressé et que ses populations sont en train de mourir jour et nuit, et qu'il doit s'assumer, n'est-ce pas, à défendre l'intégrité du territoire national conformément au serment que le président a pris à l'article 74 de la Constitution. Parce que cet article... N'est-ce pas, dispose.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dispose que le président public, lorsqu'il entre en fonction, il prend les serments devant Dieu et devant la nation, où il s'engage non seulement à respecter la Constitution, mais aussi à défendre l'intégrité du territoire national. Et donc, la défense de l'intégrité, on ne peut pas laisser ça aux États-Unis. Nous n'avons jamais voté Donald Trump comme président de la République. Nous voulons qu'il nous aide, bien sûr, mais... Il a donné l'ordre que le M23 se retire de la cité d'Ouvira. Le M23 l'a fait. S'il avait le pouvoir et la capacité nécessaire, parce que je connais qu'est-ce que c'est les États-Unis même au Conseil de sécurité où on avait voté la résolution qui avait demandé que le Rwanda se retire sans condition. Si le gouvernement aurait dit exiger la mise en œuvre et avoir les États-Unis à ses côtés, les États-Unis auraient dû peser au niveau du Conseil de sécurité, pour que le Rwanda se retire sans condition, mais on nous amène déjà à Washington pour un accord qui est en train de poser plonge. Ça veut dire que si les États-Unis voudraient nous aider, ils devraient demander au Rwanda de se retirer, et ça aurait été justice. Parce que maintenant, là, nous sommes avec les États-Unis. En fait, ils se comportent comme facilitateurs et à la fois comme partenaires de la RDC à travers les contrats minerais critiques. C'est un contrat stratégique pour nous, un accord qui permettrait à ce que les États-Unis se comportent comme tels, comme véritables alliés de la RDC. Et à ce niveau-là, mais nos minerais que nous avons donnés, ça s'appelle minerais contre sécurité. Alors nous aurions voulu que les États-Unis se comportent comme alliés et non comme facilitateurs, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de cet accord qui donne beaucoup d'avantages au Rwanda.
Allier, ça veut dire prendre aussi les arbres pour chasser les Rwandais du territoire congolais?
Mais non, mais les accords miniers, qu'est-ce qu'ils préconisent? Parce que ça s'appelle minerais stratégiques contre sécurité. Et donc, on aurait voulu, quand ils donnent les mots d'ordre au M23 et au Rwanda, de se retirer de la ville d'Uvira, et que cela est fait. Mais qu'est-ce qui a empêché qu'on ne dise « retirez-vous totalement de la RDC » C'est ce que nous attendons. Et nous attendons également que la RDC se comporte comme un État réellement agressé. La Russie agresse, n'est-ce pas, l'Ukraine, mais l'Ukraine se comporte en conséquence. On comprend très bien que l'Ukraine est en guerre. L'Ukraine n'est pas en train de fêter. L'Ukraine a lancé des bombes aussi en Russie. Mais depuis qu'on est en train de nous tuer, aucun Rwandais n'a déjà été tué par nous.
C'est vrai. Vous en avez les preuves?
J'en ai. Je sais de quoi je parle. Aucune bombe n'a été lancée dans un seul territoire rwandais.
Non, mais les Rwandais.
Mais à quoi on joue?
Les Rwandais qui sont au pays, quand ils sont au front, ils ne meurent pas?
Non, les Rwandais viennent nous tuer chez nous.
Et nous tuons aussi les Rwandais chez nous quand ils viennent nous agresser.
Mais est-ce que vous connaissez combien des milliers de personnes qui sont en train de fuir aujourd'hui au Congo, qui dorment à la belle étoile, pendant que les Rwandais dorment calmement?
Voilà, nous allons revenir vers vous pour la dernière partie et nous lisons ce qui nous vient de Moïse Angui depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Il dit aussi les constats portant sur la faible exécution des engagements contenus dans le fameux accord Washington signé entre notre pays et le Rwanda est de toute évidence vrai et vérifiable. 9 mois après la signature de cet accord souterrain, il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé à dire vrai. Le Rwanda s'obstine avec beaucoup de méfiance à respecter la grande partie des résolutions conclues. du côté de Kinshasa, qui avait pris l'engagement d'identifier, de neutraliser les FDLR. Kinshasa ne saura pas pratiquement mettre en exergue cet engagement, car en vrai, les prétendus FDLR dont on parle se trouvent aujourd'hui dans les espaces sous occupation de la FC M23. Seule la pression de la part des médiateurs permettra de dissuader les partis à concrétiser les engagements contenus dans cet accord, car jusqu'à présent, par exemple, la mesure ou le protocole portant sur le cessez-le-feu est bafoué et les combats s'intensifient sur plusieurs lignes de front au nord Kivu, ici, tout comme dans le sud Kivu. Les populations civiles continuent de payer le lourd tribut. Nous avons vivement besoin de la paix. Nous avons tant souffert dans cette guerre. Voilà ce que nous dit Moïse Angui. Et en guise de conclusion, professeur Roger Claude Liwanga, qu'en dites-vous et qu'est-ce que vous pouvez donc préconiser pour que l'accord qui a été signé et inventé puisse enfin donner les résultats escomptés?
Roger Claude. Merci M. Ngandou pour votre question. Avec le problème technique, je n'ai pas entendu la dernière partie. Mais en guise de conclusion, je dirais que le rapport montre une mise en œuvre lente, fragile, mais en progression. Il n'y a pas d'échec dans la mise en œuvre, 9 mois après. Pour le baromètre des accords de paix en Afrique, en ce qui nous concerne, nous allons continuer à suivre de manière indépendante et objective la mise en œuvre de l'accord, dans l'espoir que les prochains mois permettent de consolider la dynamique actuelle et d'apporter les résultats tangibles pour les populations qui sont affectées dans la partie est de la RDC.
Voilà, les récentes sanctions prises par les États-Unis contre l'armée rwandaise et quelques officiers, d'après vous, est-ce que ces sanctions ont joué un quelconque rôle?
Ça, c'est une question très importante. Il est difficile d'établir un lien direct en ce moment présent. Les sanctions constituent un levier diplomatique cependant. Elles peuvent influencer le comportement des partis puisqu'elles s'inscrivent dans une dynamique de pression internationale. Mais nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le retrait du M23 dans certaines localités ou encore le lancement de la neutralisation des FDLR tels qu'observés au mois de mars sont directement liés aux sanctions américaines adoptées au début du mois de mars.
Merci beaucoup, professeur Roger Claude Liwanga. Je considère cela comme votre conclusion. Joseph Koy, pour terminer, que faudra-t-il faire pour que l'accord signé puisse être finalement respecté et que la population congolaise puisse enfin humer l'heure de la paix?
Oui, merci Monsieur Ngandou. Quelques secondes. Je voudrais relever à l'attention de mon frère qui est sur sur votre studio et à l'attention de tous les Congolais et Congolais ceci. Et la signature de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda ne signifie pas que le gouvernement congolais se soustrait de son obligation régalienne de pouvoir protéger l'intégrité territoriale de notre pays. C'est la vie internationale et les choses marchent ainsi. Aussi, mon frère dit que l'accord de Washington profite au Rwanda. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas lu cet accord. S'il connaît le processus depuis sa naissance, depuis Luanda, il allait se rendre à l'évidence que si aujourd'hui cet accord est signé, c'est pour l'avantage de notre pays, parce que ce n'est pas pour rien que le Rwanda avait fui, ou le président rwandais avait fui à Luanda pour signer cet accord devant João Lourenço. J'aimerais porter à sa connaissance ceci, s'il vous plaît, que c'est avec l'accord d'Oku que Kagame est venu signer cet accord à Washington. Il faut qu'il lise et qu'il comprenne le contexte dans lequel cet accord a été signé et sa vocation de pouvoir résoudre définitivement la question de conflit à l'est de la République.
Mais il a quand même raison. S'il remarque que sur le terrain, nonobstant la signature de cet accord, rien ne change. Mais il peut s'en alarmer.
Non, ne dites pas que rien ne change. Ça ne sera pas gentil de votre part.
Si lui
parce que
estime,
vous le savez,
si
vous le savez,
rien ne va sur le
s'il
terrain.
Vous plaît, vous le savez qu'après la signature de cet accord, le Rwanda a tenté de pouvoir s'emparer de la ville d'Uvira et que sur base de l'accord de Washington, il lui a été fait obligation, un ultimatum lui avait été accordé de pouvoir se retirer et c'est ce qu'il fut fait. Et donc ne dites pas que rien ne s'est fait sur le terrain. Évidemment, la mise en œuvre est lente et cela est dû notamment par la mauvaise foi du Rwanda, mais nous sommes certains que tous les mécanismes seront mis en mouvement pour que le Rwanda soit contraint de respecter ses engagements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? Nous, gouvernement ou peuple congolais, nous faisons ce que nous pouvons faire, nous respectons nos engagements, nous avons confiance aux médiateurs, qui les États-Unis d'Amérique, nous pensons qu'il va exercer de tous les leviers possibles pour amener le Rwanda à respecter cet accord pour que finalement nous puissions vivre dans la quiétude. On ne peut pas vivre dans une région où un pays se comporte, je ne sais pas comment je peux le qualifier.
Merci,
c'est comme
Cohen.
Si rien ne peut contre lui. C'est comme si tous les États sont sous sa domination. Nous sommes certains
Merci,
que
Joseph
le Rwanda
Cohen,
est à la...
Nous considérons cela comme étant votre mot de la fin et nous recourons maintenant à Augustin Bissimoua qui est dans ce studio. Augustin Bissimoua, d'après Joseph Koy, il y a quand même des choses qui se font sur le terrain. L'honnêteté voudrait que vous puissiez le reconnaître un tout petit peu, mais à cela, que faudra-t-il faire pour que l'accord nous donne les résultats escomptés? Dans une minute et demie, pour que nous puissions clore cette émission.
D'abord, je voudrais faire observer que c'est seulement le mois passé que cet accord a été envoyé au Parlement pour ratification. Et donc, et déjà, c'est cette façon de faire ne nous a pas permis d'évoluer. Parce que le plan juridique, à ce niveau-là, il y a encore un retard. Le Parlement n'a pas encore fini ce travail-là. Deux, au niveau du processus, n'est-ce pas, interne, l'Angola avait reçu une mission, l'Union africaine avait reçu une mission d'accompagner le processus interne. Si vous posez la question maintenant là au président Lorenzo, et il va vous dire qu'il est fatigué, parce qu'il constate la mauvaise foi quelque part. Vous savez, les gens tirent profit de cette guerre comme pas possible. Autant, on ne veut pas répondre à la question de savoir où est-ce que le Rwanda et le M23 vendent et à qui ils vendent les minéraux exploités à Rubaya. C'est des minéraux stratégiques.
Et en conclusion, vous dites
alors,
quoi?
Alors, on ne veut pas aussi comprendre que les fonds alloués à la guerre ne font pas objet de contrôle. Ce qui fait que beaucoup de gens s'enrichissent au dos de cette guerre et d'autres veulent en tirer profit pour dire il n'y aura pas élection tant que la guerre n'aura pas fini. C'est ça le problème. Donc les gens n'ont pas une bonne foi.
Nous sommes dans l'accord, nous ne sommes pas encore au niveau des élections. Que faudra-t-il faire pour que cet accord donne
la bonne foi des partis. Et quand pas des partis, on voit également le gouvernement congolais.
Merci beaucoup. Il faut la bonne foi des partis. Et quand on parle des partis, on voit la bonne foi du gouvernement congolais. Ça note donc fini pour ce numéro de dialogue entre Congolais de ce soir, dont la mise en onde a été l'œuvre de Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. L'émission a été réalisée par Benjamin Moudoumbi et la coordination de Guy Maté. Cette émission vous a été présentée par Jean Ngandou. Merci à Joseph Nkoy, merci à Roger-Claude Liwanga, mais aussi à Augustin Bissimoua. Et nous vous disons au revoir et à plus.
Merci.